L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. L'extase du papillon, aujourd'hui Chiki, le mangeur de kaki qui aime les haïkus. Le livre est publié aux éditions Mundaren et il raconte la vie de Masaoka Chiki, l'un des grands maîtres du haïku et un grand réformateur surtout du haïku. C'est à lui qu'on doit le nom haïku, puisque auparavant ce petit poème de trois vers né au Japon au XVIIe siècle, était appelé Haikai. Alors, entrons dans le vif du sujet. Masaoka Chiki naît le 14 octobre 1867 d'une famille de samouraïs de rang inférieur dans la ville de Matsuyama sur la côte nord-ouest de l'île de Shikoku. Cette année-là est la dernière de l'ère Tokugawa précédant la restauration Meiji, qui va ouvrir le Japon à l'influence culturelle occidentale. Chiki n'a que 5 ans lorsque son père, alcoolique notoire, meurt, laissant la famille sans ressources financières, si ce n'est l'aide occasionnelle apportée par le grand-père maternel. Quant à sa mère, Yae, elle se met à enseigner la couture pour élever Chiki et sa jeune sœur, Ritsu. C'est le grand-père maternel Ohara Kanzan, samouraï et distingué lettré confucéen, qui enseigne les classiques chinois au fils de samouraï, qui devient le tuteur de Chiki. Kanzan est un homme fier et intègre, respecté de tout le village, méprisant la richesse matérielle et doué d'un humour détaché qui lui permet d'endurer la pauvreté. Chiki, il va sans dire, lui voue une grande admiration. Kanzan, en confucéen intransigeant, est hostile à l'influence occidentale qui commence à se faire sentir tant dans la littérature et l'art que dans la politique et le domaine de la vie quotidienne. Farouchement opposé à l'étude des langues de l'Occident, il fait un jour copier à Chiki un poème qui se termine par cette admonestation qui ne manque pas de sel. « De toute ta vie, ne lis jamais cette écriture qui avance de côté comme un crabe à travers la page. » Quand en 1871, le gouvernement, avec l'abolition des lois féodales, enjoint aux anciens samouraïs de couper leurs cheveux et d'abandonner leur épée, Kanzan, très attaché au signe extérieur de son identité de samouraï, non seulement refuse pour lui-même, mais interdit aussi que l'on coupe les cheveux de Chiki et de son cousin Ryo qui, lorsqu'ils rentrent à l'école publique élémentaire à l'âge de 6 ans, sont les deux seuls enfants à porter encore les cheveux longs. Quel est alors le quotidien de Chiki? Eh bien, le matin, il se lève à 5 heures pour aller étudier avec Kanzan avant de se rendre à l'école. Il en gardera un goût prononcé pour l'écriture et la chose écrite. À 7 ans, Kanzan commence à lui enseigner l'écriture chinoise et l'étude des classiques chinois. Il a 8 ans quand Kanzan, âgé de 57 ans, meurt alors qu'il est en train de contempler les cerisiers en fleurs dans le jardin. Cette année-là, Chiki rentre à l'école de Matsuyama. Selon la volonté de son grand-père, il continue à étudier les classiques chinois avec Tsukiya Kyumei. À 11 ans, il écrit son premier poème en style chinois, dédié au coucou. Au seuil de l'adolescence, sous l'influence de ses professeurs qui lui font lire des nouvelles et des romans d'aventure, il commence à prendre quelques distances, sans le rejeter pour autant, envers le strict confucianisme que lui a instillé son grand-père. « Nous sommes en 1881, Shiki est âgé de 14 ans et il fonde avec 4 camarades d'école son premier groupe poétique. Avec un lettré confucéen de l'école du philosophe chinois Shuxi, qui accepte de les prendre sous sa coupe, ils étudient les écrits des dynasties Tang et Song et l'œuvre philosophique de Shuxi. Ils se réunissent dans une petite pièce qui vient d'être adjointe à la maison et que Shiki a transformée en studio-bibliothèque. L'année suivante, le groupe commence à s'intéresser à la politique, notamment au mouvement démocratique des droits civiques, qui connaît alors un regain d'intérêt. Shiki et ses amis assistent aux réunions politiques de Matsuyama et créent dans leur école un club de débat politique où ils exposent leurs idées radicales et ils sont encouragés en cela par le directeur de l'école, qui est lui-même ardent avocat des droits civiques. Shiki, comme beaucoup de jeunes gens de son âge, pense trouver son salut à Tokyo, une grande ville en pleine effervescence culturelle, sous le choc de l'ouverture à l'Occident, où de multiples courants politiques, littéraires et artistiques sont en train de naître. Aussi, le jour où son oncle maternel, Kato Tsunetada, qui réside à Tokyo, apprend que l'ancien daimyo, c'est-à-dire le seigneur de Matsuyama, vient de créer des bourses d'études à Tokyo pour les enfants descendants de samouraïs, pensant que Shiki, bon élève, a de sérieuses chances d'en obtenir une, eh bien il écrit à son neveu, lui proposant de venir immédiatement à Tokyo. La lettre arrive le 8 juin 1883. Deux jours plus tard, accompagné au bateau en partance pour Tokyo par sa mère, sa sœur, des parents et des amis, Shiki, le cœur serré, quitte Matsuyama, il a 16 ans. À Tokyo, Shiki réside quelques instants dans la résidence de l'ancien daimyo d'Isamatsu avec le titre de garçon de service. Il n'a, ma foi, que très peu de tâches à accomplir, il est avant tout considéré comme un étudiant. Bénéficiant d'une bourse d'études, il entre à l'école secondaire Kyoritsu. Il y apprend l'anglais et prépare l'examen d'entrée à l'école préparatoire à l'université, affiliée à l'université impériale. Au bout de 2 ans, au lieu de 3 généralement, il est reçu. Il s'installe en tant que boursier dans la résidence universitaire de Hongo, géré par une fondation dirigée par le clan de Matsuyama. C'est à cette époque que Shiki commence à se passionner pour le haïku, la poésie populaire de forme brève, portée à son apogée poétique 2 siècles auparavant par Mathieu Bachot. Il lit avec ferveur l'œuvre des maîtres de jadis et compose ses propres haïkus. Aussi, lorsqu'au cours de l'été 1886, il retourne à Matsuyama pour ses vacances, il parvient à se faire introduire auprès du maître de haïku local, Ohara Kiju, alors âgé de 80 ans, disciple du grand maître Baishitsu. Il se rend donc chez Kiju et découvre avec stupéfaction que la maison de celui-ci est recouverte des murs au plafond de feuilles de papier où sont inscrits des poèmes et des dessins. Shiki montre à Kiju quelques haïkus de sa composition. Emballé, ce dernier compose en l'honneur de son jeune invité un poème où il le compare à un jeune dragon bondissant sur le mont Fuji. Bien qu'il s'agisse de là leur unique rencontre, Shiki écrira plus tard que Kiju fut son seul professeur de haïku. De retour à Tokyo, il commence à s'intéresser à la philosophie, notamment à l'œuvre du philosophe taoïste de l'antiquité chinoise, Chuang Tzu, et à celle du philosophe anglais contemporain, Herbert Spencer, tout en continuant à lire beaucoup de littérature contemporaine et de poésie. En 1889, il écrit un essai intitulé « Origine et développement de la poésie », où il met en valeur la puissance poétique du haïku. Cette année-là, il a maintenant 22 ans. Lors d'une excursion sous la pluie à Kamakura, Pour la première fois, il se met à cracher du sang, signe avant-coureur de la tuberculose. C'est alors qu'il prend pour la première fois comme nom de plume Shiki, prononciation sino-japonaise du mot chinois signifiant « coucou », un oiseau qui, selon la légende, crache du sang chaque fois qu'il chante. C'est en 1889 aussi que Shiki rencontre et se lie d'une profonde amitié avec Natsume Soseki, née la même année que lui, futur célèbre auteur de nouvelles. Leur échange littéraire débouche bientôt sur une intense connivence poétique. En 1890, âgé de 23 ans, diplômé de l'école préparatoire, Shiki entre à l'université impériale au département de littérature japonaise. Son goût pour le haïku et la prose poétique devient si prononcé qu'il se met à assister de moins en moins souvent aux cours à l'université. Au moment de passer les examens de juin 1891, il part voyager dans le sud de la province de Nagano, puis se rend à Matsuyama. De retour à Tokyo, le voilà décidé à quitter la résidence universitaire de Hongu, il loue une maison dans le quartier de Komagome pour préparer la session d'examen de septembre. Voilà ce qu'il raconte de cette époque. La maison se trouve dans un endroit calme, propice à l'étude. Mais la seule chose que j'étudie est le haïku et la nouvelle. Quand approche la date de l'examen, ayant néanmoins décidé de m'y présenter, quelques jours avant, je débarrasse mon bureau de tous les livres de haïku et dispose les notes nécessaires pour préparer l'examen. Mon bureau étant habituellement en complet désordre, lorsque je m'y assois, de le voir si nu, si net, me procure un plaisir indéfinissable. Aussitôt un haïku me traverse l'esprit. J'ouvre mon cahier de notes, mais avant que j'aie terminé de lire la première page, un autre poème se présente. Comme j'ai rangé mon carnet de poésie ainsi que mes feuilles de papier, je n'ai rien pour écrire à portée de la main. Aussi commençais-je à calligraphier sur l'abat-jour. Les poèmes se présentent les uns après les autres. En transe, j'oublie l'examen et recouvre l'abat-jour de poèmes. Raison pour laquelle, sans doute, Shiki échoue à l'examen final de septembre 1892 et décide d'abandonner là les études universitaires. Par là même, il renonce à la bourse qu'il a fait vivre depuis son arrivée à Tokyo 9 années auparavant. À la fin de l'année 1892, il écrit qu'il ne lui reste plus dans la poche qu'un sen et 10 rin, même pas de quoi acheter un pinceau. Mais dans son indifférence envers la richesse matérielle, il garde une grande force d'âme, fidèle en cela à l'esprit de son grand-père Kanzan. Shiki est maintenant âgé de 24 ans. Il pense pouvoir gagner sa vie en écrivant dans des magazines. Il compte sur l'aide d'un ami de son oncle, Kuga Katsunane, de 10 ans son aîné, propriétaire du journal quotidien Nippon, très critique envers l'occidentalisation de la politique et de la culture japonaise. Et bien d'emblée, Katsunane et Shiki lient amitié. Shiki décide de se consacrer désormais à deux tâches, lire tous les recueils de haïku publiés à ce jour, en vue d'écrire une histoire du haïku par auteur, par saison et par thème, et par ailleurs travailler à la composition de nouvelles, le genre littéraire le plus représentatif de la modernité du début de la restauration Meiji dans le sillage de Ryukei, Shoyo et Rohan qu'il admire particulièrement pour la nouveauté du ton et du propos. En mars 1892, Shiki rend visite à Rohan et lui présente une nouvelle de sa composition intitulée « La capitale sous la lune ». Mais Rohan ne lui prodigue aucune parole d'encouragement. Déçu, Shiki décide d'abandonner provisoirement la nouvelle pour se consacrer entièrement à la poésie, surtout au haïku dont il a maintenant acquis une grande connaissance. Grand admirateur des journaux de voyage poétiques de Basho, il entreprend deux pèlerinages poétiques jusqu'à Waizo et Hakone, dont résulteront deux journaux, Le Manteau Invisible et Le Récit du Pont Suspendu, qui sont publiés dans le journal Nippon de son ami Katsunan. De l'été à l'automne 1892, il effectue un périple dans le nord de Honshu, sur les traces de Basho, le long de l'étroit chemin vers Oku, titre du célèbre journal de voyage du vieux maître. À Nippon Matsu, hébergé au temple zen Manpukuji, Shiki compose. Ô vénérable Bouddha, tournant le dos, la lune fraîche. Ô vénérable Bouddha, tournant le dos, la lune fraîche. Regardant en bas, sous la lune fraîche, 4000 maisons. Regardant en bas, sous la lune fraîche, 4000 maisons. Du 26 juin au 2 octobre 1892, l'ami de Shiki Katsunan publie dans son journal quotidien Nippon une série de 38 chroniques intitulées « Propos sur le haïku du repère de la loutre ». Shiki a pris comme autre nom de plume le maître du repère de la loutre par allusion à son habitude d'entretenir dans sa chambre un bric-à-brac de livres et de feuilles manuscrites. Dans ses chroniques, il appelle de ses voeux une revitalisation du haïku dont l'énergie poétique s'est quelque peu tarie lors des dernières décennies. Selon lui, les raisons d'un tel affadissement tiennent dans l'incompétence et le passéisme des actuels maîtres de haïku dans la vulgarisation du haïku lors de la période Tokugawa, quand il devint un passe-temps de la classe marchande, et dans l'incompatibilité entre l'idéal de base de la littérature et de l'art, cette indicible grâce et la vulgarité de l'âge moderne. En novembre de la même année, Shiki, âgé de 25 ans, rejoint formellement la rédaction de Nippon, moyennant un salaire mensuel de 15 yens, certes modeste, mais pour un travail qui lui laisse beaucoup de temps libre. Il continue sa chronique dans la rubrique Haïku de Nippon et gagne maintenant correctement sa vie. Aussi, sa mère et sa sœur Ritsu viennent-elles le rejoindre à Tokyo au cours du printemps 1893. Il écrit alors ce haïku, seul, dans le bureau éditorial, pluie du cinquième mois. Seul, dans le bureau éditorial, pluie du cinquième mois. Au milieu de l'été 1893, Shiki entreprend un nouveau voyage à pied dans la région de Tohoku, le nord-est de Honshu, sur les traces de Basho lors de son pèlerinage poétique relaté dans son fameux journal poétique Les Trois Chemins vers le Nord Profond. Son carnet de voyage, celui de Shiki, est publié en feuilleton dans Nippon sous le titre « Voyage sans fin ». On y peut lire ces deux haïkus. Le corps nu, pressé contre le mur. Quelle chaleur! Le corps nu, pressé contre le mur. Quelle chaleur! L'averse du soir, les femmes de chambre s'empressent de fermer les stores. « Shiki rassemble tous ses haïkus de l'année 1893 dans un recueil intitulé « Montagne froide, arbre nu » publié par Nippon. Au début de l'année 1894, il emménage dans le quartier Negishi à côté de chez Katsunan, le directeur de Nippon, et en février 1894, Katsunan décidant de publier un nouveau journal prolongement culturel de Nippon appelé Cho Nippon, le petit Nippon, il en nomme Shiki le rédacteur en chef. Mais à cause de difficultés financières et d'ennuis politiques dus à la ligne rédactionnelle anti-gouvernementale du groupe Nippon, le petit Nippon cesse de paraître et Shiki retourne dans la rédaction de Nippon. Le 25 juillet 1894, éclate la guerre sino-japonaise. À sa demande et malgré les mises en garde de son entourage en raison de sa santé fragile, Shiki est envoyé en Chine comme correspondant du journal Nippon. Mais le traité de paix est signé le 17 avril de l'année suivante, avant même que Shiki n'atteigne le rivage de la Chine. Il accoste néanmoins à Deren en Mandchourie, où il retrouve son ami le peintre Fuzetsu avec qui il pérégrine quelque temps dans la région de Chincho. Hébergé dans un campement sale et surpeuplé, Shiki tombe sérieusement malade, il tousse beaucoup et crache à nouveau du sang. Dans le bateau qui le ramène au Japon à la mi-mai, les conditions de traversée sont épouvantables. Aussi, quand il accoste à Kobe, il est bien trop faible pour marcher et on doit le transporter à l'hôpital. Les médecins pensent qu'il va succomber à la maladie, mais miraculeusement, il survit. Il sort de l'hôpital le 23 juillet et va se reposer dans le sanatorium de Suma au bord de la mer. Il se promène et se remet à écrire pour sa chronique dans Nippon. Dessous dans le tronc, en échange de la véranda du temple, fraîcheur. Dessous dans le tronc, en échange de la véranda du temple, fraîcheur. Au mois d'août 1895, rétabli, Shiki retourne à Matsuyama, sa ville natale, où il séjourne chez son ami Natsume Soseki, du même âge que lui, futur grand romancier et nouvelliste, et alors encore jeune instituteur inconnu. Un groupe de jeunes poètes de Matsuyama adopte Shiki comme mentor et se réunit chaque jour autour de lui dans la maison de Soseki, qui finit par se joindre naturellement au groupe. Shiki les initie au nouveau style de haïku qu'il préconise, composition d'après l'observation et ancrage du poème dans l'expérience. Il condense ses idées dans un texte intitulé « Grandes lignes du haïku » que Nippon publie en chronique à partir d'octobre. Il commence aussi la publication dans Nippon de ses notes de convalescence et au cours du mois d'octobre 1895, il décide de retourner à Tokyo. Quittant Soseki, il compose ce haïku « Je pars, tu restes, deux automnes. Je pars, tu restes, deux automnes. » En chemin à Suma pour la première fois, il ressent des douleurs pelviennes qui lui rendent la marche très pénible et il est à nouveau hospitalisé. Dans une maison de repos de Suma, il compose « Personne. » Sur le fauteuil à l'ombre des arbres, les aiguilles de pin tombent. Personne. Sur le fauteuil à l'ombre des arbres, les aiguilles de pin tombent. Le garde-malade, somnolent, se réveille et frappe la mouche. Le garde-malade, somnolent, se réveille et frappe la mouche. À peu près rétabli, Shiki reprend sa route vers Tokyo. À Nara, s'arrêtant pour se reposer dans une maison de thé, non loin du temple Horyuji, célèbre pour ses vergers de Kaki, il compose ces deux haïkus. Croquant un kaki, sonne la cloche du temple Oryuji. Croquant un kaki, sonne la cloche du temple Oryuji. La cloche du soir et le bruit des kakis mûrs du temple qui tombent. La cloche du soir et le bruit des kakis mûrs du temple qui tombent. De retour à Tokyo à la fin de 1895, Shiki, maintenant âgé de 28 ans, reprend ses activités poétiques au journal Nippon. L'éditeur de Nippon, Kuga Katsunan, avec qui il est très lié, je vous le rappelle, est son voisin dans le quartier Negishi, d'où l'on aperçoit les montagnes d'Ueno. Un courant littéraire reconnu comme tel prend forme autour de lui. Ce courant est d'ailleurs appelé l'école Negishi. Au début du mois de février 1896, Masaoka Shiki éprouve des difficultés à marcher et bientôt ne peut plus se lever de son lit. Le médecin lui apprend qu'il souffre non pas de rhumatisme comme il le pensait, mais d'une tuberculose spinale qui va le clouer au lit à plus ou moins brève échéance. D'emblée, Shiki décide de ne pas laisser la pensée de la maladie le submerger et de trouver la joie de vivre dans un monde rétréci. Je vois la neige tomber à travers un trou dans le shoji. Je vois la neige tomber à travers un trou dans le shoji. Maintes et maintes fois, de la profondeur de la neige, je m'enquiers. Maintes et maintes fois, de la profondeur de la neige, je m'enquiers. À ma maison natale sous la neige, alité, je ne fais que penser. À ma maison natale sous la neige, alité, je ne fais que penser. Dans la fiole de médicaments, une branche du prunier en fleurs. Dans la fiole de médicaments, une branche du prunier en fleurs. Voilà, fin de cette première partie de l'extase du papillon consacrée au grand Masaoka Shiki. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez peut-être vous procurer le livre des éditions Mundaren, Shiki, le mangeur de kaki, qui aime les haïkus sur lesquels je me suis très largement appuyé. À la semaine prochaine.